Bonsoir, merci d'être là. La Bible en 24 heures, on arrive à la sixième heure. Où est-ce qu'on est? Vous vous souvenez qu'est-ce qu'on a vu déjà?
On n'est pas là en fait.
On n'est pas là. On arrive ce soir là. Très bien, ouais. Et puis il y en a un autre après les nombres. On a vite passé dessus pour dire que c'était la deuxième déclaration de la loi. Ça veut dire deuxième loi, deuxième rendition de la loi. Et ça terminait les cinq livres, les cinq premiers livres de Moïse qu'on appelle comment ? Pentateuque ou en hébreu ?
Torah.
La Torah qui veut dire quoi en hébreu ? La loi. Ok ? Et là on arrive à Josué. C'est un livre, on pourrait dire, d'histoire militaire, de conquête. Et on va regarder ensemble, si vous avez une Bible, regardez le livre de Josué, on va lire juste quelques passages. Josué succédait à Moïse, c'était son assistant, et c'est lui qui en fait devait faire entrer le peuple en terre promise après que Moïse les fait sortir d'Égypte avec l'épisode du passage de la mer des joncs et qu'ils aient erré dans le désert pendant près de 40 ans parce qu'ils avaient refusé d'obéir et de faire confiance à Dieu. Et donc Moïse laisse la place à Josué, un des deux espions avec Caleb qui avait été voir la terre promise et qui avait foi qu'on pouvait... Le peuple pouvait conquérir la terre promise avec l'aide de Dieu. Et que s'il y avait des obstacles, ils n'étaient pas insurmontables. Lorsque Dieu est avec nous, on avait dit ça, c'est une leçon de foi pour nous tous. Une minorité plus Dieu, c'est irrésistible. Même si vous êtes tout seul, mais que Dieu vous conduit, n'ayez pas à avoir peur. Et au verset 7 et 8... Dieu dit l'Éternel, donc au tout début, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, assistant de Moïse, et là, verset 7, on va dire même 6, fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne pas, ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Continue, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Et si Dieu dit ainsi à Josué de se fortifier, de ne pas avoir peur, d'avoir courage, qu'est-ce que ça montre à votre avis? Une chose toute bête. Dieu est là, mais en ce qui concerne Josué,
il avait peur.
Hein. Dieu ne se casserait pas la tête à lui dire 10 fois de suite, « N'aie pas peur, ça va aller, je suis avec toi. » Et donc, en cela, il est comparable à beaucoup d'entre nous, où lorsque nous voulons faire des choses pour Dieu, nous avons peur de ne pas y arriver, nous avons peur des obstacles. Josué, c'était un fils unique. Donc il nous a dit qu'il était le fils d'un dénommé Noun. Il a dû donc apprécier la prescription du sang de l'agneau qui était mis sur la porte des habitations où se trouvaient des Juifs qui mangeaient la Pâque, parce que lui-même, il aurait pu, s'il n'y avait pas eu ce sang de l'agneau, il aurait sans doute été tué par l'ange de l'Éternel, par l'ange qui a passé au-dessus des maisons où il y avait le sang. Et ce sang, encore une fois, c'était un signe. On a vu que c'était marqué. C'est un signe de quoi ?
Protection.
Protection, mais un signe de un signe de quoi ? Un signe que le sacrifice avait déjà été offert. S'il y avait le sang, ça veut dire qu'il y avait déjà eu le sacrifice. Il était avec Moïse sur le mont Sinaï. C'était quelqu'un qui avait vraiment été un proche de Moïse. Dans l'Exode 24:13, il est dit « Moïse se leva avec Josué, son assistant, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. » Donc il était proche de ce grand Moïse. Les cinq premiers chapitres de Josué, c'est l'entrée en terre promise. Dans Josué 4, il est question de dresser un autel avec 12 pierres. Chapitre 4, verset 1. « Lorsque toute la nation eut achevé de traverser le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme par tribu. Donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici du milieu du Jourdain de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous ferez passer avec vous et que vous déposerez au campement où vous passerez cette nuit. » Et donc, ils font un monument. Et c'est intéressant parce que dans le Nouveau Testament, dans Jean, chapitre 1, verset 28, vous regardez aussi, Jean, dans le Nouveau Testament, page 103 dans la Bible à la colombe, cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait, il utilisait Jean 1, 28. Il n'allait pas aux enfants à la montagne, il utilisait le Jourdain pour baptiser. Et il est dit, en fait c'est dans Matthieu 3, 8 qu'on va voir la question de cet autel. Matthieu 3, 8. Il se faisait, verset 6, il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Comme il voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et n'imaginez pas pouvoir dire, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que c'est de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et beaucoup pensent que ce sont les pierres qui avaient été mises en place, cet autel qui avait été mis en place par Josué des centaines d'années auparavant. Ça c'est un petit à côté, un petit aparté. La conquête de la terre promise commence par cette célèbre bataille. Quelle est la célèbre bataille de Josué, la première bataille qu'il a remportée? Est-ce que vous vous souvenez? Jéricho. 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 Dans les plaines de Jéricho, il y avait cette ville importante, protégée par des murailles. Et vous vous souvenez que Dieu, l'Éternel, va demander à Josué d'utiliser une tactique étrange pour remporter la bataille. On imagine que ça a dû être très dur pour Josué, qui était un homme de guerre, qui était un général en chef, d'aller voir ces hommes et leur dire, voilà le plan qu'on va utiliser. Alors vous vous souvenez, qu'est-ce que c'était en gros le plan? Alors on va faire le tour de la ville, combien de fois? D'abord une fois par jour pendant 6 jours, et le 7e jour on va faire le tour de la ville 7 fois, et c'est là qu'on va crier, et les murs de la ville vont tomber. Et c'est ce qui s'est passé, c'était la grande victoire de Jéricho. Qui a gagné la bataille de Jéricho, à votre avis? C'est Dieu. C'est même, peut même être plus précis. Si on regarde verset 13 du chapitre 5, comme Josué se trouvait à Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait en face de lui, son épée nue à la main. Josué marcha vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il dit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Josué fit ainsi. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose qu'on a vu la semaine dernière? Exactement. Exode 3, verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. Et on avait fait la remarque, en fait, il est question de Dieu, du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob, mais qu'au juste avant, au verset 2, du même chapitre 3, il est question de l'ange de l'Éternel qui est apparu dans une flamme de feu. Et on a dit que à chaque fois qu'on parle de l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, la plupart des commentateurs s'accordent à penser que c'est Jésus-Christ qui vient avant de venir s'incarner à Bethléem au début de notre ère chrétienne, mais que Dieu avait la possibilité Jésus avait la possibilité de venir sous la forme d'un ange. Et là, cet homme dans Josué, à la fin du chapitre 5, donc, Josué se prosterne devant cet homme. C'est intéressant, Josué lui a posé la question, tu es pour nous ou contre nous? Il y avait un homme qui se tenait en face de lui, une épée nue à la main. Et Josué, en fait, lorsqu'il l'autre personne lui parle, on peut remarquer qu'il ne lui répond pas. Es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Il dit non. C'est pas une réponse, ça. Et souvent, c'est aussi une méthode de Jésus, lorsqu'on lui pose une question, il répond par d'autres questions. Je crois qu'on avait vu ça avec Dominique Ferré lorsque il nous en avait parlé aussi. Et Josué se prosterne devant lui et « Mon Seigneur ». Et on sait que il n'y a qu'un ange qui accepte l'adoration à part l'ange de l'Éternel, à part Jésus, c'est Satan. Et là, de toute évidence, ce n'est pas Satan. Et donc, beaucoup s'accordent à penser aussi que c'est une préincarnation de Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que le nom de Josué, c'est le mot hébreu qui nous a donné Jésus en grec. C'est la même racine, ça vient de Yehoshua, Josué, Jésus. Et Yehoshua en hébreu, ça veut dire le salut de Dieu ou Dieu sauve. C'est donc Le nom de Jésus, ça nous rappelle que c'est Dieu qui nous sauve par Jésus. Il y a un autre passage dans Zacharie où il est question « L'Éternel sortira et combattra ses nations comme au jour où il combat, au jour de la bataille. » Et plutôt que « Il combattra contre ses nations comme au jour où il combat », c'est comme « Au jour où il a combattu, au jour de la bataille. » Et dans ce passage, on pense que là aussi, c'est une référence à cette bataille de Jéricho où Josué a remporté la victoire grâce à Jésus. Jéricho, c'est une très belle ville. C'est une ville qui était réputée pour son climat et le fait que c'était la ville des palmiers. C'est aussi la ville, une autre traduction, une autre interprétation, c'est la ville du dieu lune, de la lune. Et la lune, c'était un symbole dans les anciennes religions babyloniennes qui a été repris par quelle religion, la lune ? L'islam. Hein, le croissant islamique, c'est en fait la lune qui est représentée. Et donc, c'est pas Mahomet a repris ce symbole au VIe siècle de notre ère, mais c'était déjà une référence à une vieille histoire, à un vieux symbole satanique du dieu lune. Aujourd'hui, c'est toujours une ville, à l'époque où j'avais fait une première étude, c'était une ville clé de l'organisation de libération de la Palestine. Aujourd'hui, c'est une ville principale des territoires qui ont été cédés par Israël aux Palestiniens. Et quand on est allé en Israël en février dernier avec Nancy, notre guide était juif, israélien, et c'était aussi l'ancien chef militaire des forces israéliennes à Jéricho. Et il pouvait pas aller là-bas en tant que d'abord ancien chef militaire de la ville et en tant que israélien. Donc on n'a pas pu rentrer à Jéricho. Aujourd'hui, pour aller à Jéricho avec un guide, il faut que ce soit un guide, soit un guide étranger, soit un guide palestinien. Et on n'avait pas le temps d'attendre pour un guide qui aurait pu nous emmener. Mais c'est pour dire que cette ville antique, elle est toujours là. Il y a eu des fouilles archéologiques qui ont semblé corroborer, vérifier le récit biblique où il y a des ruines, et les ruines, au lieu d'être normalement, lorsque on attaque une ville, les pierres devraient tomber à l'intérieur de la limite des murailles, et là, apparemment, au contraire, elles semblent être tombées de l'autre côté des murs, de la ligne du mur. Donc c'est comme si la ville a explosé, d'après les restes archéologiques. Voilà, vous souvenez des... Donc Josué avait envoyé des espions qui avaient rencontré Rahab, qui leur avait permis qui les avait cachés. Rahab, c'est une ancêtre de Jésus dans la généalogie de Matthieu et de Luc, on parle d'elle comme elle est dans la lignée de Jésus. C'était quelqu'un donc de Jéricho. Elle tenait un hôtel, c'était peut-être un hôtel de passe d'ailleurs, mais c'était quelque chose de pas très glorieux. Mais elle a aidé les espions juifs pour aider Josué. Après la bataille de Josué, vous vous souvenez d'une autre bataille, c'est la bataille de quoi ? Nous qui sommes du Midi, on aurait y pensé, c'est la bataille d'Aï, A-I, pas A-I-L. Et là, c'était une petite ville, et sans doute les forces d'Israël pensaient qu'elles pouvaient avancer maintenant par leurs propres forces, parce qu'ils ont envoyé des troupes. en nombre réduit, et en fait ils se sont fait battre par la ville d'Aï, par les habitants de cette ville. Il y avait un dénommé Achan qui avait gardé pour lui des vêtements, des choses qui auraient dû être détruites. Vous vous souvenez de l'expression voué à l'interdit, ça veut dire voué à la destruction. Et tout ce qui était à Jéricho avait été voué à l'interdit, mais lui avait gardé des beaux vêtements. Et à cause de ça, Dieu n'avait pas béni l'attaque contre Aï. Il y a plusieurs passages, je vous laisse survoler. Vous-même, vous pouvez lire, je vous conseille de lire, en profiter pendant qu'on fait cette étude pour survoler la Bible aussi. Il y a ce qu'on appelle la ruse des Gabaonites, les habitants d'une ville qui n'était pas très loin, Gabaon, et qui ont fait croire à Josué, en fait, qu'il venait de très loin en se déguisant, en mettant du pain rassis, en mettant des chaussures usées, en prenant des outres à vin usées, déchirées, rapiécées. Et là aussi, on voit comment Josué ne demande pas l'avis du Seigneur. Il réagit. Et encore une fois, c'est pour nous mettre en garde, nous-mêmes, lorsque nous avons des jugements à apporter, des jugements de valeur sur des situations, de toujours demander l'aide de Dieu, ne pas nous fier à nos propres impressions, à nos propres émotions. Parce que on peut se faire tromper, on peut même être trompé quand on demande l'aide de Dieu, mais au moins, si on le fait, on a couvert nos bases, comme on dit, on a pris nos précautions, et c'est aussi une attitude d'humilité que Dieu honore en nous protégeant. Il y a une autre bataille qui va c'est au chapitre 10. C'est justement la grande bataille près de Gabaon, qui va être suivie de batailles dans le sud. Et là, l'Éternel aide Josué, qui lui a demandé de l'aide. L'Éternel, verset 8, lui a dit « Ne les crains pas, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Et puis, il va... L'Éternel, verset 11, « fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux que les Israélites tuèrent par l'épée. » Encore une fois, c'est Dieu qui remporte la bataille. Et les choses vont bien pour Josué, mais il manque de temps pour vraiment terminer le combat. Et là, il est dit qu'il fait une prière étrange, qui manque pas de foi. Josué, verset 12, parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux Israélites. Et il dit en présence d'Israël, « Soleil, tiens-toi immobile sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Aïalon. » Et le soleil se tint immobile, et la lune s'arrêta, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Ceci est écrit dans le livre du juste. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que la Bible est inspirée? Est-ce qu'elle est la vérité? Ou est-ce qu'il y a des histoires un peu légendaires, un peu énormes? Notre approche rationnelle aurait tendance à nous faire douter de la réalité historique de cet épisode. Mais, un peu comme André Hagen, il y a des scientifiques qui ont essayé de voir, partons de l'hypothèse que la Bible décrit véridiquement un phénomène historique, Et essayons de voir un peu qu'est-ce que ça voudrait dire. Il y a en particulier un dénommé Emmanuel Velikovsky, un Américain d'origine polonaise qui a écrit des livres qui ont fait beaucoup de bruit aux États-Unis dans les années 50 au propos de la Bible et de la science. Ce n'était pas un croyant, ni un chrétien, ni un juif, même s'il devait être d'origine polonaise juive, mais il pensait qu'il y avait dans les récits mythologiques ou bibliques des réflexions qui montraient une vérité historique. Et il s'est dit, en fait, s'il y a eu une longue nuit en Israël, il y a dû avoir plutôt un long jour en Israël, il y a dû avoir une longue nuit à l'opposé. Et il a trouvé qu'en fait, dans les textes, les mythes et les légendes ou les récits, qu'on présente souvent comme mythiques, chez les Incas, en Amérique du Sud, ou chez les Maoris en Nouvelle-Zélande, il est question d'une très longue nuit qui a surpris tout le monde. Il a développé une théorie très intéressante sur la planète Mars. Mars qui a été une planète dénommée ainsi d'après le nom du dieu de la guerre chez les Grecs. Et c'est le nom romain, en fait, les noms grecs, c'est Arès. On parle aujourd'hui, il était le dieu de la guerre, Mars. Et on parle aujourd'hui des arts martiaux, pour parler des arts de combat, comme le judo, le karaté, on parle donc le mot de Mars. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait toujours une grande inquiétude dans l'ancien temps vis-à-vis de cette planète. Les populations primitives étaient souvent horrifiées ou affolées, terrifiées par les astres et les planètes, mais particulièrement par la planète Mars. Une chose qui est intéressante aussi, c'est qu'il note qu'il y a un calendrier de 360 jours dans la plupart des civilisations antiques, chez les Mayas, chez les Chinois, chez les Chaldéens, chez les Égyptiens, chez les Romains, les Grecs, les Hébreux. C'était 360 jours. Ça faisait 12 mois de 30 jours. Et puis, en l'an 710 avant Jésus-Christ, les Romains sont aperçus qu'en fait, il fallait rectifier le tir. Ils ont ajouté 5 jours. Et on parle du calendrier julien, mais ça a été officialisé donc après, d'après le nom de Jules César. Mais il semble qu'il y ait eu un changement du temps orbital de la Terre autour du Soleil, et que ce soit passé de 360 à 365 jours. Il a développé un modèle de ce qu'il appelait la résonance orbitale. Il y avait, entre la Terre et Mars, il y avait 720 jours, un ratio de 2 à 1, entre le temps de Mars, de la rotation de Mars autour du Soleil et de la Terre. Et en fait, avec cette résonance, le fait que ces deux planètes tournaient avec cette fréquence corrigée pour la Terre de 360 jours, il a conclu qu'en fait, tous les 54 ans ou les 108 ans, il y avait des conjonctions, soit de la Terre avec Mars au même endroit, soit à l'opposé de leurs orbites. Et en étudiant toujours ces anciens textes, il a réalisé qu'en fait, il y avait eu des phénomènes, des catastrophes sur Terre avec cette fréquence de 54 ans ou 108 ans. Et il a expliqué qu'en fait, peut-être il y avait eu, en 1404 avant Jésus-Christ, ce qui correspondrait à la date des conquêtes de Jéricho et de Gabaon, Il y aurait eu ce qu'il appelait une inversion de l'axe des pôles de la Terre, que la Terre aurait continué à tourner toujours sur elle-même, dans le même sens, mais que le pôle Nord se serait passé au pôle Sud et le pôle Sud serait passé au pôle Nord. Alors ça paraît énorme, et ces théories ont fait beaucoup de bruit. Je sais pas ce qu'il est. J'ai demandé à André Hagen par email s'il avait entendu parler de ces théories, et j'attends qu'il me réponde. Un phénomène, toujours par rapport à Mars, je ne dis pas que ça s'est passé comme ça, mais je dis qu'il y a des gens scientifiques qui étudient et qui font des découvertes très intéressantes. Mars, on a trouvé, vous savez que le télescope a été mis au point par Galilée en 1610 seulement. On a seulement récemment, en 1877, un astronome américain a découvert deux satellites de Mars, un qui s'appelle Phobos, la crainte, et l'autre qui s'appelle Deimos, qui veut dire la terreur. Ça, c'était les noms qui avaient été donnés à ces satellites avant qu'ils ne soient découverts scientifiquement. Parce que c'est des tout petits satellites. Phobos, le plus grand, ne fait que 27 km sur 21 km. Il y a un cratère de moins 10 km. C'est une sphère très cabossée. On la voit maintenant. Vous pouvez aller sur Internet et voir des photos de ces satellites. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'auteur des voyages de Gulliver, Jonathan Swift, en 1726, et Voltaire, et vous souvenez, vous avez dit qu'il n'y aurait plus de Bible dans 100 ans après sa mort, mais qui croyait quand même qu'il y avait un horloger, dans le livre Micromégas, toi qui as fait Hippocagne, tu as dû entendre parler de Micromégas de Voltaire. Si tu vas dans le livre, il a été écrit en 1752, il a déjà parlé, lui aussi, de deux satellites de Mars. Alors, en fait, la science ne les a observés officiellement qu'en 1877. Le livre Quid parle du fait que Voltaire a parlé de ces deux satellites sans qu'on sache comment lui et Jonathan Swift avaient eu connaissance de ces satellites. Et en fait, l'idée, c'est que ils avaient trouvé ça, ces références à ces deux satellites de Mars, dans la littérature ancienne. Et ce qui veut dire qu'à une époque, l'homme a vu sans télescope, sans astronomie, pouvait voir ces objets. Et ça correspondait probablement au moment où Mars et la Terre venaient très proches l'un de l'autre. Donc, c'est très intéressant, c'est passionnant pour ceux qui aiment bien un peu les spéculations scientifiques, mais de voir qu'en fait, cette possibilité que la Terre se soit arrêtée de tourner n'est pas aussi invraisemblable, aussi mythologique qu'on pourrait le prendre à première vue. Si ça vous intéresse, je peux vous donner J'ai un livre de cet auteur Velikovsky et je suis très curieux de savoir ce que André Hagen pense de ces choses. On se dit, mais attends, si la Terre s'arrête de tourner, ça va être la... Vous avez déjà été dans un train, quand le train s'arrête brutalement, tout le monde se tombe dessus. Et on se dit, si on passe de la vitesse de rotation de la Terre à zéro, pour se retourner ou quoi que ce soit, ça va être la catastrophe sur Terre. En fait, c'est si la Terre a pris 6 heures pour s'arrêter, ça serait comme passer de 100 km à 0 km en 20 minutes. Donc on a le temps de décélérer et de s'arrêter sans que tout passe à travers la fenêtre. Si même elle s'est arrêtée de tourner en 30 secondes, c'est comme de passer de 100 km à l'heure à 0 km à l'heure en 8 minutes. Là aussi, on va pouvoir ralentir, c'est comme un train qui freine. Et surtout, c'est un événement unique. La Bible nous le dit, verset 14, « Il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. » Ce phénomène, est-ce que Dieu l'a fait coïncider avec le moment où Josué a prié, cette prière bizarre, Mais, juste encore une fois, c'est pour vous montrer que il y a des gens très sérieux, des scientifiques, qui veulent voir la Bible comme vraiment un livre authentique, un livre de vérité. Et plutôt que de dire la livre est fausse, la Bible est fausse parce qu'elle raconte des choses impossibles, de partir de dire si la Bible est vraie, alors qu'est-ce que ça implique scientifiquement? Et si c'est le cas, on voit que ça peut faire des découvertes, ça peut permettre de faire des recherches dans une direction où on va trouver des choses formidables et nouvelles, plutôt que de dire la Bible a tort, on ne peut pas croire à ce qu'elle dit. Maintenant, la Bible, le livre de Josué, ce livre de conquête de la terre promise, c'est souvent comparé à la lettre de Paul aux Éphésiens, où on doit s'approprier notre héritage spirituel, où on doit revêtir l'armure du combat, parce qu'on est engagé dans un combat spirituel. En matière prophétique, elle fait penser à l'Apocalypse, où il y a ce combat contre des nations, la période de 7 ans, une campagne de 7 ans dont il est question aussi dans Josué, qui fait penser à la grande tribulation de 7 ans. Il y a aussi dans les récits de la bataille, la présence d'un chef de l'armée confédérée, Adonis Tzedek, le roi de justice, qui fait penser à l'Antéchrist. Tous les deux sont abattus par des chutes de grêlons énormes. Il y a des chutes de grêlons dans Josué, on vient de le voir. Dans l'Apocalypse aussi, il est dit que les rois se cachent dans les cavernes pour se protéger de la chute des rochers. Et puis, le reste du livre, c'est la division et l'installation des Juifs, du peuple d'Israël sur la terre promise. Et c'est l'attribution des territoires. Ça vient du mot de tribu. S'attribuer, c'est en tant que tribu s'approprier un territoire. Combien il y avait de fils de Jacob? 12. Très bien. Quel est le passage pour savoir comment ça s'organise? Genèse 35, 22. Notez-le dans votre Bible, parce que à chaque fois, quand vous lisez l'Ancien Testament, il est question des 12 tribus d'Israël. Et on est souvent confus parce que on sait que des fois on ne cite pas Joseph, qui était un des fils de Jacob, mais on cite ses deux enfants, Manassé et Éphraïm, qu'il avait eu avec la fille d'un prêtre égyptien. Donc Genèse 35, 22. Et là, c'est clairement expliqué les fils de Léa, les fils de Rachel, et puis les fils que Jacob avait eu avec la servante de Rachel qui s'appelait Bilha, et avec la servante de Léa qui s'appelait Zilpa. Et là, c'est un bon passage pour vous y retrouver. Il y a aussi dans les différentes descriptions des tribus, des fois on omet la tribu de Lévi, parce que Lévi, c'était des prêtres, et eux n'avaient pas de territoire. Ils avaient juste des villes pour eux et 6 cités de refuge qu'ils géraient. Il y a aussi de l'autre côté du Jourdain, il y a la tribu de Ruben, de Gad, et la moitié de la tribu de Manassé, donc 2 tribus ennemies qui avaient choisi de rester à l'est du Jourdain, qui avaient dit on va vous aider à conquérir la terre promise, mais nous on aime bien les territoires qui sont de l'autre côté du Jourdain, et ont préféré rester là. Mais ils ont eu beaucoup de défaites parce qu'il n'y avait plus de protection naturelle pour les protéger. Et ça nous rappelle que des fois, on ne veut pas ce que Dieu a de mieux pour nous. Dieu voulait les protéger, il voulait qu'ils passent le Jourdain, qu'ils s'installent à l'intérieur de la terre promise. Eux avaient dit c'est pas mal, mais ici ça nous suffit, on est bien. Et nous, trop souvent aussi, on a une position, on a une situation, on a des circonstances qui sont bien, mais qui sont peut-être pas les circonstances que Dieu a pour nous, l'appel que Dieu a pour nous, on se contente de moins bien que ce que Dieu veut pour nous. J'ai dit les Lévites avaient des cités de refuge, c'est un type de Jésus-Christ. Notre cité de refuge, c'est Jésus. Lorsque quelqu'un commettait un meurtre non prémédité, il pouvait courir pour échapper à la vengeance de la famille de la personne tuée, qui avait le droit de se venger du sang normalement, mais là, s'il arrivait dans une cité de refuge, il était protégé. Et c'est une préfiguration, un type de notre cité de refuge qui est Jésus-Christ. Si nous sommes en Christ, l'ennemi ne peut rien contre nous, parce que celui qui est au dehors est moins fort que celui qui est au dedans. 1 Jean 4:4. Le 4:4 de Jean qui gagnait. Ils étaient là bloqués aussi jusqu'à ce que le grand prêtre meure. Nous aussi, on doit rester en Christ pour toujours. L'illustration de la terre promise, souvent on a l'impression que c'est la terre dans laquelle on va arriver après notre mort. Et il y a beaucoup d'hymnes de négro spirituel, d'hymnes de gospel africain, américain, qui décrivent le passage du Jourdain comme le passage vers l'autre rive après la mort. Et la ville de Jéricho, tous ces chants qu'on connaît, ou qu'on reconnaît, font une erreur théologique. La terre promise, c'est pour maintenant. Parce que là, en terre promise, il y a des combats. Josué, Caleb, qui va à 85 ans, qui va encore faire des conquêtes, il devait se battre pour remporter les territoires contre les Cananéens qui étaient encore là. Et nous, on espère que lorsqu'on passera de l'autre côté, qu'on sera en présence de Dieu, de Christ, ne plus être ici, c'est être avec Christ, Philippiens, hein, on n'aura pas encore à se battre toute la journée, on aura enfin atteint la terre de victoire. Et donc la terre promise, c'est quelque chose, ça correspond davantage à la vie abondante que Dieu a pour nous qui commence dès ici-bas. C'est une vie où il y a des combats, où on prend des raclées, où on gagne des victoires avec lui. Et plus on lui fait confiance et plus il nous soutient. Mais la leçon du livre de Josué, c'est de se confier à lui, de ne pas se battre dans nos propres forces. C'est de lui consacrer nos vies, nos talents, nos ressources, nos affections, et de nous approprier, comme il devait s'approprier, une vie abondante par la foi, la vie que Dieu envoie par son esprit au travers de son Fils. Ça, c'est la leçon du livre de Josué. Le livre des juges, c'est un livre triste. Pourquoi ? Parce que c'est un livre qui montre comment l'homme a tendance à s'adonner à l'idolâtrie quand les choses vont bien. Dans la Bible, il y a souvent des périodes de 400 ans entre Abraham et Joseph, entre Joseph et l'Exode, donc la sortie d'Égypte, entre l'Exode et l'arrivée de la royauté, entre la royauté et l'exil, il y a des périodes de près de 400 ans, ou plus précisément de 490 ans. Il y a des 70 fois 7, c'est un chiffre qu'on retrouve dans une prophétie célèbre de Daniel, dans Daniel 9. Et en fait, on a remarqué que beaucoup de ces périodes de l'histoire si on fait exception des années qui sont passées en dehors de la volonté de Dieu, la plupart de ces périodes font ce chiffre de 70 fois 7. Par exemple, Abraham avait 75 ans lorsque il a eu Ismaël, et il est dit que dans Galates 3:17, regardez Galates 3:17. Lorsque la loi a été donnée, il s'est passé un testament déjà établi en bonne forme par Dieu ne peut pas être annulé par la loi survenue 430 ans plus tard, ce qui a en tiré la promesse. À 75 ans, pardon, il a eu la promesse que Dieu allait de faire de lui une source de bénédiction pour son peuple et qu'à travers lui, toutes les nations de la terre seraient bénies. De 75 ans à 430, ça fait 505 ans, mais il y a eu 15 ans où Abraham a suivi Ismaël. Souvenez, il avait donné naissance, ou Dieu avait donné naissance à Ismaël, que Abraham avait eu avec l'esclave de sa femme Sarai, qui est devenue plus tard Sarah. Et si on retire les 505, des 15 ans hors en dehors de la volonté de Dieu de ces 505 ans, on retombe sur le 490. Dans le livre des juges, on va voir qu'il y a à peu près 111 ans qui correspondent à des années de domination par des peuplades cananéennes qui ont pris le pouvoir parce que Dieu a laissé ces peuplades gagner sur le peuple d'Israël. La construction du temple, ça a pris 600 ans, jusqu'à la construction du temple, il y a eu 601 années, moins 111 ans, on retrouve 490. On va juste rapidement, on y reviendra, mais pour que vous voyez la signification particulière de ce chiffre de 490, regardez le livre de Daniel, à la fin des prophètes, avant les petits prophètes, Daniel 9, 10. Page 886. C'est la plus célèbre prophétie de la Bible qui est encore en cours de réalisation. Il est dit, page 886, chapitre 9 de Daniel, verset 24, 70 semaines. Une semaine, c'était le mot Shabua, qui veut dire simplement une série de 7. Et plutôt que de semaine de 7 jours, il est question de 70 septaines, ou 70 fois 7 ans. Et c'est là qu'on retrouve cette valeur de 70 fois 7, de 490. Il est dit, verset 24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, Jérusalem, pour faire cesser les crimes et mettre fin au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie et pour oindre le Saint des Saints. Prends donc connaissance et comprends. Depuis la promulgation de la parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem, là on a une date. Ça correspond à Néhémie 2, chapitre 2, verset 1. Ça correspond au 14 mars 445 avant Jésus-Christ. Depuis cette date-là, jusqu'au prince Messie, le prince Messie, c'est qui, à votre avis ? Jésus. Il y a 7 semaines. Donc, depuis la proclamation du 14 mars 445 avant Jésus-Christ, jusque, si on ajoute 7 semaines, c'est-à-dire 7 fois 7, 49 ans, on arrive au 6 avril de l'année 32, qui est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Il y a un chercheur, ça c'est sur la base de travaux qui ont été faits au 19e siècle. J'ai un livre que je peux vous passer si vous voulez voir tous ces calculs. Et dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis et reconstruits, mais ils ont des temps d'angoisse. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché et il n'y aura personne pour lui. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Quand on Pardon, quand j'ai dit les 49 ans, c'est il y a 7 semaines et 62 semaines. Ça fait, c'est ça qui nous permet d'arriver à l'entrée triomphale de Jésus. Ça fait 69 semaines de 9 mois, de 7 ans, pardon. 69 fois 7, ça arrive à 6 avril 32. Et puis, il est question en des temps d'angoisse, on arrive au verset 26, après les 62 semaines, un Messie sera retranché, il n'y aura personne pour lui, le peuple d'un prince qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, ça fait allusion à la crucifixion, le Messie qui est retranché, le peuple d'un prince qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, c'est l'arrivée de Titus en l'an 70, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur ira à l'extrême des abominations jusqu'à ce que la ruine qui a été résolue fonde sur le dévastateur. En fait, à partir de la promulgation du décret de Néhémie, il y a eu 70 semaines. Mais la dernière semaine, c'est comme au bout de la 62 semaines, 7 semaines plus 62, 69e semaine, c'est comme si le chronomètre de l'histoire avait été stoppé. Et maintenant, on attend que le chronomètre soit redémarré, parce qu'il y est question de la grande tribulation de l'Église, qui va durer la moitié d'une semaine, et la dernière semaine, les derniers 3 ans et demi, de la tribulation, ce sera la victoire, ce sera la fin de cette période que Jésus reviendra battre le monde, et c'est là que la ruine fondra sur le dévastateur, sur l'antéchrist. On y reviendra. Je voulais juste vous montrer cette période de 490 ans qui revient dans plusieurs passages bibliques et qui est un thème répété dans toute la Bible. 70 fois 7. Le livre des juges nous dit qu'il n'y avait pas de roi en Israël encore. Chacun faisait bon ce qui bon lui semblait. C'est un peu notre époque aujourd'hui. Chacun fait ce qu'il veut. Ne m'embêtez pas avec votre Bible. Moi, je veux vivre de ma façon. Vivez de la vôtre et ne m'embêtez pas. On voit dans le livre des juges un cycle du péché, où il y a la prospérité qui conduit à l'idolâtrie. Tout va bien, le peuple oublie Dieu, il se tourne vers ses idoles. Aujourd'hui, lorsque tout va bien, on se tourne vers le matérialisme, vers le sexe, vers les plaisirs, vers les divertissements, comme disait Pascal. Et puis, Dieu envoyait l'oppression par des voisins. Dieu utilisait en fait ces choses pour juger son peuple. Et là, sous la souffrance, sous la crise économique, sous le chômage, les gens, sous la guerre qui fait peur, les gens recommencent à penser à Dieu. Et se dire qu'en fait, le matérialisme, c'est bien beau, d'avoir des fortunes en bourse, c'est bien beau, mais du jour au lendemain, ça peut partir. Et là, les gens commencent à s'ouvrir un peu plus et revenir à Dieu. On va voir si c'est vrai. Et puis Dieu, lorsqu'il y a cette repentance, lorsque ce retour à lui, il délivre son peuple. Il envoie un juge à l'époque qui permet un retour à la prospérité. Et là, malheureusement, les hommes sont indécrottables. On retombe dans le même travers. Et il faut que Dieu utilise des circonstances négatives pour nous ramener à lui. Ça n'a pas besoin d'être comme ça, mais historiquement, et dans le livre des juges, on voit cette série de 12 juges, Othniel, Ehud, Shamgar, Déborah, Gédéon, Tola, Yaïr, Jephté, Ibstan, Elon, Abdon, et on termine par Samson, qui était le plus connu, qui a mis fin à une période de 40 ans de domination des Philistins. Et les autres, je pourrais vous donner les années, mais vous les voyez lorsque vous lisez ce passage. Au total, il y a eu 11 années 111 années de servitude, et ce cycle infernal qui n'a pas lieu d'être, mais qui malheureusement, si on ne demande pas l'aide de Dieu pour en sortir, on est souvent nous-mêmes. On vient à Dieu parce qu'on a des épreuves. Dieu nous aide, les choses vont mieux et on oublie Dieu. On se concentre sur le bonheur, sur nos choses matérielles. Et parce qu'il nous aime, il est obligé d'envoyer des circonstances négatives dans notre vie pour nous rappeler à l'ordre. Le livre des juges est un livre déprimant parce qu'il parle de ce cycle et il y a des choses terribles. Il y a dans le juge 19-19, vous pourriez aller voir, il y a l'épisode sordide d'un lévite qui était de passage à Gibéa, une ville du territoire de Benjamin. Et pour respecter l'hospitalité, il avait été accueilli chez un habitant, un benjaminite. Mais les benjaminites, les habitants de Benjamin, voulaient violer cet homme. Et l'homme qui l'avait reçu a dit « C'est pas grave, je vous donne ma fille, vous pouvez en faire ce que vous voulez. » Et l'homme, le même, le lévite, qui était avec une concubine, a dit « Je vous donne aussi ma concubine. » Et le lendemain matin, ces deux femmes avaient été violées par des nombres incalculables d'hommes. Elles étaient retrouvées mortes. Et ce lévite avait découpé en morceaux ce qui restait de cette femme et l'avait envoyé dans tous les territoires d'Israël pour montrer l'horreur. Et ça rappelle un épisode avec la ville de Sodome et Gomorre, où là aussi, devant l'hospitalité, les hommes étaient prêts à sacrifier des femmes. Et suite à cette terrible chose, les peuples d'Israël avaient attaqué les habitants de Benjamin et au bout du compte, il n'y avait plus que 600 benjaminites. Et par la suite, ils ont envoyé, après avoir fait la paix, les Israéliens ont renvoyé, les Juifs ont envoyé de leurs filles pour reconstituer la tribu de Benjamin, dont étaient issus Saül, par exemple, et Paul. Tout ça pour nous montrer que nous avons besoin d'un sauveur. Pas cet épisode, mais c'est en particulier qui montre l'horreur que peut accomplir l'homme. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un reportage hier soir sur la guerre de 14-18, sur la vie des poilus dans les tranchées, des poilus et des Allemands. Et on n'arrive pas à comprendre comment des hommes ont pu se retrouver dans des circonstances pareilles, des milliers, des centaines de milliers d'obus qui explosaient, des gens qui étaient que de la chair à canon. Et quand on voit ça, on se dit mais où est Dieu? Qu'est-ce que Dieu faisait? Et en fait, c'était... On va y revenir, mais... ça nous montre qu'on a besoin de sauveur qui nous sauve par sa grâce qu'on ne mérite pas. C'est Dieu et non l'homme qui sauve et qui délivre. On ne peut pas servir deux maîtres. Jésus nous disait. On ne peut pas accepter la vie chrétienne seulement pour voir si ça marche. Certains disent, bon, je vais être chrétien, je vais voir si ça apporte la paix ou le bonheur. Il faut vraiment se repentir et c'est la condition de la délivrance. Le livre suivant, c'est le livre de Ruth. Ça, c'est un livre encourageant. Ça s'est passé à la même époque que la période des juges. Et c'est une merveilleuse histoire d'amour prophétique qu'on doit comprendre pour déjà comprendre l'Apocalypse. Dans les généalogies, la dixième personne est souvent un personnage important. En partant de Adam, à 10 générations, on arrive à Noé. Ensuite, de Shem à Abraham, il y a encore 10 générations. De Isaac, le fils d'Abraham, à Boaz,
le héros de cette histoire, il y a aussi 10 générations. Vous vous souvenez qu'il y avait une famine de juifs qui était de Bethléem, en Juda, qui avait été obligé de partir dans le pays païen de Moab parce qu'il n'avait plus de... Il y avait la famine, il n'y avait plus de blé. Il y avait... Le père s'appelait Élimélec, l'Éternel est mon roi, qui était marié à Noémie, qui veut dire plaisante, belle, gracieuse. Ils avaient 2 fils, par contre, qui n'avaient pas l'air très, très vaillant, très, très en bonne santé, parce que l'un s'appelait Malon, qui veut dire maladif, et l'autre qui s'appelait Kilion. Kilion, ça veut dire qui languit. Des noms qui semblent signifier qu'ils étaient de petite santé. Élimélec meurt dans le pays de Moab, et ses 2 fils épousent 2 Moabites, 2 habitants de ce pays, Orpa, dont le nom signifie jeunesse, et Ruth, dont le nom signifie amitié, amitié fidèle. Les 2 garçons meurent, et Noémie se retrouve avec Orpa et Ruth. Orpa, elle, décide de quitter sa belle-mère, son ancienne belle-mère, et d'aller refaire sa vie. Par contre, Ruth décide de suivre Noémie, qui décide de rentrer au pays. Et Ruth a cette très belle phrase dans Ruth 1,16 « Ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. » Ruth 1,16. Ça, c'est un très beau symbole de loyauté, d'engagement. Ça pourrait être un verset pour un mariage. Mais le mariage dont il est question dans ce livre, en fait, c'est avec Boaz, qui était un proche parent de Élimélec. Et dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique notamment, il est question du rôle du proche parent. Le parent proche, qu'on appelait aussi en hébreu le Goël. Et le Goël, c'était donc quelqu'un qui pouvait accomplir des rachats. Dans l'Ancien Testament, il y avait 3 genres de rachats stipulés. On pouvait racheter la propriété de quelqu'un qui l'avait vendu à quelqu'un d'autre. Dans le Lévitique, ça s'est décrit dans le Lévitique 25-27. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le devoir de rachat, son plus proche parent, donc son Goël, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le devoir de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. Et là, on voit en fait que Boaz, ce proche parent, va racheter un terrain qui avait appartenu à Élimélec parce qu'il est proche parent. Il a pu rendre ce terrain à Naomi, la femme de ce proche parent, Élimélec. Ça, c'est le rachat de la propriété. Il y a aussi le rachat de l'esclavage. Si, Lévitique 25, 47, 49, si un émigrant ou un résident temporaire chez toi a des ressources, et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'immigrant ou au résident temporaire chez toi, quelqu'un du clan de l'immigrant, il y aura pour lui le droit de rachat après qu'il se sera vendu. Un de ses frères pourra le racheter, son oncle ou le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents pourra donc le racheter. Il pouvait aussi se racheter lui-même s'il avait des ressources qui lui arrivaient. Donc l'idée, c'est que quelqu'un était pauvre et se disait « je vais me vendre comme esclave pour faire face à mes dettes ». Ça existe encore en Afrique. Des enfants sont vendus en esclavage. Les parents ont des dettes et ils vendent leurs enfants. Là, c'était la personne même qui disait « j'ai des dettes que j'arrive pas à payer. Je vais me vendre à la personne ». S'il retrouvait un peu d'argent et qu'il pouvait se racheter, il pouvait le faire. Sinon, c'était un proche parent qui avait le droit de le faire. Et ce proche parent, cet homme riche et âgé, Boaz, dont il est question dans ce livre de Ruth, a racheté Naomi et Ruth de leur esclavage. Il leur a redonné leur dignité de citoyenne. Elles qui étaient pauvres, elles étaient maintenant des citoyennes à part entière. Et le troisième type de rachat, donc, rachat de la propriété, rachat de l'esclavage, il y avait le rachat de la postérité. Ça, c'est une loi qu'on trouve dans le Deutéronome 25, versets 5 et 6. Si une femme israélite perdait son mari sans avoir d'enfant, son beau-frère devait la prendre pour épouse pour donner des enfants à son frère à titre posthume, pour qu'il ait des héritiers. Coutume un peu bizarre, mais un homme qui mourait sans avoir donné d'enfant à sa femme pouvait se remarier ou avoir des enfants avec un de ses frères pour que le frère décédé ait une postérité et des descendants par le frère. C'est un peu bizarre aujourd'hui d'imaginer ça. Ça existe encore en Afrique ou en Asie, très intéressant. Et donc, là aussi, lorsque Boaz décide d'épouser Ruth, la belle-fille de son proche parent Élimélec, là aussi, il va pouvoir lui donner une postérité. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette postérité, ça va être un dénommé Obed, qui va être aussi dans la généalogie, l'arrière-grand-père ou le grand-père de Jésus-Christ. Donc dans la généalogie de Jésus, on voit qu'il y a des Moabites, il y a des... On avait vu aussi un autre ancêtre qui n'était pas juif. Rab. Et encore une fois, les juifs ont tendance à privilégier la race juive, etc. Mais même la postérité d'Abraham, elle passe par des non-juifs. Ça, c'est un rappel très important que le chrétien ne doit aucunement faire avoir des préjugés raciaux, des préjugés sociaux. En Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni riche, ni pauvre, ni maître, ni serviteur. Le chrétien doit se caractériser par une absence de tout préjugé. S'il en a, s'ils ont été hérités de son éducation, de sa famille, il a vraiment prié que Dieu l'en délivre complètement, parce que on n'a aucune raison d'avoir des préjugés, des orgueils nationaux, raciaux. Et les gens qui se disent chrétiens et qui en même temps montrent du racisme, ils n'ont rien compris. Et donc... Quelque part, on peut se réjouir de voir un homme de couleur arriver président des États-Unis et remettre beaucoup de choses en place au niveau de la capacité de tout homme à faire n'importe quoi. Il n'y a pas encore une fois le racisme. Alors il y a le racisme qui est l'attitude. Après, il y a les discriminations qui sont les conséquences de ce racisme. On voit les discriminations, on ne voit pas le racisme qu'il peut y avoir dans le cœur, mais il se manifeste toujours par les discriminations. Mais cette histoire de Boaz qui rachète la propriété et Boaz et Naomi et Ruth de leur esclavage et qui donne une postérité à son fils, en fait, c'est une très belle illustration de notre relation avec Dieu. Il y avait trois conditions pour qu'un proche parent agisse en qualité de racheteur, de rédempteur. C'est ce que veut dire le mot rédempteur. Des fois, on parle de la rédemption. Tu es mon rédempteur. Ça veut dire simplement racheter. Il y avait trois conditions. Pour pouvoir racheter quelqu'un, il fallait être un proche parent. Il fallait avoir les moyens de racheter. Si on était aussi pauvre que la personne qui était à racheter, on ne pouvait pas le faire. Et en fait, il fallait être volontaire, il fallait le vouloir, il fallait être volontaire, d'accord pour le rachat. Dans Hébreux 8.5, il est dit que les lois de l'Ancien Testament ne sont que l'ombre des réalités célestes. Et le rachat chez les Israélites, et dans cette histoire de Ruth, c'est en fait le rachat auquel Jésus-Christ s'est livré lui-même. Il nous a rachetés de l'esclavage du péché. Jean 8,36, si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Il a engendré une postérité d'hommes libres.
Ésaïe 53:10, après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance par nous et par nos descendants. Il n'a pas encore racheté la terre. Il est proche parent, il est un frère, Jésus-Christ. Il peut nous racheter de l'esclavage, il l'a fait. Il peut nous donner une descendance d'hommes libres. Il l'a fait, mais il n'a pas encore acheté la terre. Est-ce que vous le saviez, ça? Ça, c'est la partie la plus importante que je veux que vous gardiez en tête. Il y a beaucoup de chrétiens engagés, sincères, qui n'ont encore pas compris ça. Dieu a donné la terre à Adam et Ève. Genèse 1, 28, Dieu bénit Adam et Ève et leur dit « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » Mais dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Ils voulaient connaître le bien et le mal, alors que là, jusqu'à là, ils ne connaissaient que le bien. Ils ont désobéi à Dieu. Quand on désobéit à Dieu, on obéit à qui? À Satan. C'était Satan qui leur disait « Mais c'est pas vrai. Bon, je te dis, Dieu, il veut pas ton intérêt. Il veut te garder comme esclave. Mais moi, je te dis, si tu manges de ce fruit, tu seras aussi fort que Dieu. Ah ouais, c'est bon. » Et en désobéissant, ils ont obéi à Satan. Romains 6, 16 explique un principe éternel. Si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. En devenant esclave de Satan, l'homme a renoncé à son droit de propriété sur la terre. Jésus a appelé Satan le prince de ce monde. Jean 12, 31. Maintenant, c'est le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Paul a appelé Satan le dieu de ce siècle. 2 Corinthiens 4, 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. Jean nous dit... Dans 1 Jean, il y a 1 Jean 4, 4 qui nous dit que celui qui est au dehors est plus fort, est moins fort que celui qui est au dedans. Mais 1 Jean 5, 19 nous dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. » Rappelons-nous, lorsque Satan a tenté Jésus après son baptême, il lui a montré tous les royaumes du monde et lui a dit « Je te donnerai tout ce pouvoir » et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise, et je la donne à qui je veux. C'était une tentation diabolique au sens propre, parce qu'il voulait tenter Jésus de ne pas aller à la croix pour avoir les royaumes. Mais Jésus n'a pas encore racheté la terre. On verra, en regardant dans l'Apocalypse, que... Il y a un épisode qui fait pleurer Jean, qui écrit donc l'Apocalypse, lorsque, on peut regarder en vitesse, l'Apocalypse se terminera par ça. Le livre scellé des sept sceaux, verset 5 de l'Apocalypse. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux, et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. » Et il y a cet épisode sublime où on voit Jésus prendre ce livre et l'ouvrir. Et
pour différentes raisons, on n'a pas le temps, malheureusement, de rentrer dans les détails. On y reviendra dans l'Apocalypse. La plupart des commentateurs s'accordent à penser, en fait, que ce livre qu'il ouvre, c'était en fait le titre de propriété de la terre. Et que c'est seulement au retour de Christ qu'il reprendra possession de la terre et qu'il rachètera la terre que nos ancêtres ont donnée à Satan. Et ça, c'est fondamental pour comprendre que le monde tel qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas le monde tel que Dieu l'a voulu et tel que Dieu l'a créé et tel qu'il va le recréer. Lorsque je vois les guerres de 14-18 et les morts, les boucheries, la folie humaine, je me dis, mais où est Dieu? En fait, Dieu, c'est le temps de sa patience. Il attend que tous, il souhaite que tous parviennent à la repentance. Et maintenant, c'est le temps de sa grâce. Et un jour, il va reprendre, il va racheter la terre, il va faire les trois opérations que pouvait faire le Goël, le proche parent, il va racheter de l'esclavage, il va racheter une postérité, il va racheter la terre. Et ces trois choses, c'est une merveilleuse promesse. Là aussi, quand on voit comme ça ainsi l'histoire biblique dans son ensemble, on comprend mieux la destination. Qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Quand vos amis vous disent, mais pourquoi est-ce que Dieu permet ces choses? Si Dieu existe, c'est pas possible qu'il y ait des choses aussi horribles que ça. Vous devez être à même de leur dire, le monde tel qu'il est, c'est le monde tel que l'homme l'a rendu en désobéissant à Dieu. Et nous vivons dans les conséquences du péché, de la désobéissance de l'homme. Dieu va revenir et remettre les choses en ordre. Mais maintenant, c'est le temps pour venir à lui, pour venir recevoir sa grâce et venir à Jésus-Christ et être sauvé. Nous épargner la terrible période de la grande tribulation qui aura lieu lorsque Dieu remettra en marche le compteur pour cette dernière semaine, pour ces sept dernières années. Voilà, donc c'est beaucoup de choses, je reconnais, ça va très vite, mais c'est pour vous donner des points de repère et de comprendre un peu mieux comment tout se tient, comment tout est un message que des hommes qui ont écrit ces textes sur 1500 ans, dans différentes conditions sociales, différentes langues, ils n'auraient pas pu trouver ça tout seuls. C'est Dieu qui a donné ce message. C'est Dieu qui veut qu'on le connaisse et qu'on le partage. Amen.